explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac!
Le temps d'un bivouac.
J'ai fait
Daniel Fievé.
On aurait pu le penser intouchable, inébranlable, ce mastodonte placide dont il se dégage une force tranquille. Pourtant, l'éléphant, un peu partout où il se trouve, se meurt. Au Laos, par exemple, il appartenait à tout le monde, l'éléphant, aussi bien au roi qu'aux petites communautés rurales. On l'élevait pour le transport, l'agriculture ou la guerre. L'éléphant fait partie intégrante de l'histoire du Laos. Là-bas, il est un véritable symbole national. Cela ne suffit pas à assurer sa sauvegarde. Au Laos, comme ailleurs, l'éléphant disparaît. Alors quelles sont les menaces qui pèsent sur lui? Comment évolue le rapport entre l'homme et cet animal? Est-il encore possible de faire quelque chose pour sauver cette espèce? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. L'un est ethnologue, l'autre auteur de bande dessinée. Ils ne se connaissaient pas et ils font un métier très différent, mais ont la même curiosité pour ces éléphants qui les a conduits jusqu'au Laos.
Nous allons faire un petit voyage tous les deux.
Le temps d'un bivouac.
Non, non, on va pas commencer.
En avion.
Mais ça suffit. Ça suffit. Non.
Daniel Fievé.
Suivez mes instructions, oui. Tout droit.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Pour m'accompagner jusqu'à 17h, je suis avec Jean-Marc Troups et Nicolas Lenné. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Nicolas Lenné, vous êtes ethnologue, associé au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, spécialiste des relations entre l'homme et l'éléphant d'Asie. Jean-Marc Troups, auteur de bande dessinée et grand voyageur. Après avoir observé les éléphants au Laos, vous avez publié avec Nicolas Dumonteuil une bande dessinée intitulée « La longue marche des éléphants » aux éditions Futuropolis. Alors vous allez tous les deux nous raconter vos voyages et ce qu'ils vous ont appris sur ces pachydermes que vous avez observés. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr et notre page Facebook. À 17h, comme tous les mercredis, nous nous intéresserons à la vie et aux pérégrinations d'un grand voyageur qui a marqué son époque. Aujourd'hui, nous remonterons le temps jusqu'au XIIIe siècle pour un voyage sur les pas de Marco Polo. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Sophie Vaux, Mathieu Aoued et Hugo Struna.
La caravane des éléphants touche le cœur des traditions et de la culture là-haut. Les éléphants ont joué un rôle essentiel dans notre pays, tant pratique que spirituel, pendant des siècles. C'est une opportunité pour nous d'élever la voix et de dire aux citoyens du monde, unissons-nous pour protéger l'éléphant, ce patrimoine du Laos. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait plus de 50 éléphants dans mon village. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une dizaine. C'est triste. Notre pays s'appelait le pays du million d'éléphants. Et maintenant, où sont-ils passés ?
Un Laotien déplorant la disparition des éléphants de son pays et de sa culture aussi. C'était à l'occasion de la caravane des éléphants de 2015 que Nicolas Dumonteuil a suivi et qu'il raconte dans la bande dessinée que vous co-signez, Jean-Marc Troups. Quel était le but de cette longue caravane des éléphants?
Le but de la caravane, c'était de replacer les éléphants dans le contexte du Laos, un peu comme c'était avant en fait. Il y a beaucoup de Laotiens qui n'ont jamais vu d'éléphants, en fait. Les jeunes générations, dans les villages, ils n'avaient jamais vu ça. Donc il s'agissait de traverser sur 500 kilomètres une bonne partie du pays avec 20 éléphants. Et il y avait aussi une troupe de théâtre, en fait. Il y avait des musiciens, des danseurs, des gens de théâtre et aussi Nicolas Dumonteuil qui faisait les dessins.
Alors ça paraît incroyable parce que le Laos, pendant longtemps, ça a été le pays aux millions d'éléphants. Il y avait, comme on l'a entendu dans le témoignage de ce Laotien, une cinquantaine d'éléphants par village. Et là, vous nous dites, avec cette caravane, on a traversé des villages où certaines personnes n'avaient jamais vu d'éléphants. Comment on en est arrivé là ?
On est arrivé là assez vite hein, par l'effet de la modernité tout simplement. Il reste à peu près 350 éléphants sauvages au Laos et à peu près 400 domestiques. Les sauvages, c'est pas facile de les compter évidemment pour le recensement. Mais on en est à peu près à cette situation. Ouais. Le gros problème en fait, c'est la déforestation.
Nicolas Lenné, la principale raison de la disparition importante des éléphants, aussi bien domestiques que des éléphants sauvages. C'est la déforestation, c'est la seule explication.
Alors c'est notamment la déforestation qu'ont connue d'ailleurs tous les pays d'Asie hein, depuis la seconde moitié du siècle dernier. À cela s'ajoutent des braconnages qui existent et une lutte pour l'habitat. Donc effectivement, on met souvent en avant la déforestation. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais la situation est toujours, comme bien souvent, très complexe. Ouais. Il y a différents éléments, en tout cas.
Mais ouais. Ça reste, malgré tout, l'éléphant reste un symbole fort au Laos. Même si il n'est plus très présent physiquement, il reste un symbole fort.
Alors, tout à fait, c'est un symbole, et il faut le signaler, c'est un symbole vivant.
Ouais.
Ce n'est justement pas qu'une image qu'on peut voir dans les temples et associée à la religion. C'est vraiment un symbole vivant, un symbole fort. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui les discours qui sont construits autour de l'ancienne appellation de l'Ansang, hein, du million d'éléphants au Laos. Évidemment, il n'y a jamais eu de million d'éléphants au Laos, oui. Mais effectivement, c'est quand même aussi là un discours, une image très forte. Force est de constater qu'en effet, les populations ont été décimées au cours des dernières décennies.
Alors, il était très présent dans les villages. Il servait à quoi, en fait, cet éléphant, quand il était dans les villages?
Alors, toute l'année, les éléphants, et encore aujourd'hui, hein, ceux qui vivent encore dans les villages, eh bien, ils ont de multiples tâches, j'ai envie de dire. Moi, d'après mes enquêtes, c'est vrai qu'il y a eu une accélération des travaux de débardage de bois qui est arrivée au moment de l'ouverture du pays, parce qu'il faut aussi recontextualiser Laos, qui était un pays fermé, qui a connu des guerres. Donc, les guerres, je ne l'ai pas mentionné, mais ils ont aussi quand même décimé une bonne partie de la faune sauvage. Et puis, l'ouverture au pays dans les années 80 a fait s'accélérer les travaux de débardage de bois. Là encore, c'est des histoires qu'on peut retrouver chez le voisin thaïlandais ou encore en Inde. Et donc, au village principalement, c'était les travaux de débardage de bois. Mais toute l'année, et encore aujourd'hui, les éléphants ont de multiples tâches. Par exemple, l'été dernier, au moment des moussons, ils servent pour le repiquage du riz, par exemple, l'été. Et ils amènent avec eux toute une famille qui part en transhumance du village jusqu'à la ferme. Ils ont là encore un rôle assez important. Et pareil, pour ramener les semences et les moissons au village.
Ouais. Donc, ils sont moins utilisés, mais on l'entend en vous écoutant, ils sont encore utilisés. Et les Laotiens qui possèdent encore des éléphants y sont très attachés.
Dans ma jeunesse, l'éléphant était le tracteur et la voiture de la famille. Aujourd'hui, on utilise moins l'éléphant pour travailler et se déplacer. Je possède deux éléphants qui travaillent dans ma ferme. Un éléphant, ça coûte cher à nourrir et entretenir. J'ai parfois pensé à les vendre pour gagner un peu d'argent. On m'a proposé d'acheter une voiture. Mais la voiture coûte autant d'argent en entretien et n'en rapporte pas. Mais je les garde, car ils font partie de la famille depuis si longtemps. Je préfère donc garder mes éléphants et les faire travailler dans mes champs. Et puis aussi, gagner un peu d'argent avec le tourisme.
Extrait du documentaire « Au pays du million d'éléphants hein, », ce Laos qui est ainsi surnommé, Nicolas Lenné. Les éléphants font partie de la famille, c'est ce que disait ce Laotien dans cet extrait. C'est une façon de parler ou ça une réalité? C'est vraiment des membres de la famille, les éléphants, quand on en possède?
Complètement au Laos, et là encore, hein, j'ai pu aussi observer en Inde, au Laos, chaque éléphant appartient avant tout à une famille, un foyer, et à ce titre, ces êtres qui font partie de la communauté villageoise, et bien ils sont également protégés par tout un ensemble d'entités surnaturelles, par exemple l'esprit du foyer, le Fihun, qui va veiller aussi bien que les parents ou les enfants à veiller justement à la protection et à la santé de l'animal. Donc ce n'est pas juste des paroles, quand on le dit, ils appartiennent vraiment à un foyer.
Ça, une réalité. Alors le nombre d'éléphants domestiques diminue, le nombre d'éléphants sauvages aussi. Jean-Marc Troups, vous avez séjourné, alors vous n'avez pas participé à cette longue marche des éléphants, mais vous attendiez, on va dire, les éléphants à la fin de cette longue marche. Et alors vous avez eu la chance de vous rendre au centre de conservation des éléphants du Laos. Un endroit qui a l'air absolument paradisiaque, en tout cas quand on voit vos dessins dans votre bande dessinée La Longue Marche des éléphants, ça fait rêver. Quel est le but de ce centre?
Le but de ce centre, en fait, c'est d'adopter des éléphants de réforme, un petit peu, des éléphants qui sont fatigués, des éléphants qui ne peuvent plus travailler, et de les mettre là dans des conditions plus ou moins naturelles, avec les cornacs quand même, Et c'est un peu financé avec des touristes qui passent et des choses comme ça. Et aussi d'éduquer donc les gens, autant les Laotiens que les gens étrangers qui viennent et leur montrer cela.
Alors les cornacs, comment on peut définir, on y reviendra hein, sur le rôle du cornac qui est très important, mais pour les gens qui connaissent pas bien ce monde des éléphants, c'est quoi? On peut dire dresseur, on peut dire c'est l'équivalent du jockey pour le cheval, c'est quoi le cornac pour l'éléphant? C'est dur de trouver un équivalent en fait.
Oui, c'est plus que ça, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une entité, ils sont tout le temps ensemble en fait. Ils sont vraiment tout le temps ensemble, ils se parlent, ils vivent ensemble, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et au centre de conservation par exemple, il y avait des éléphants qui étaient plutôt jeunes et leur cornac était plutôt jeune. En fait. Mm-hmm. Il y avait des cornacs qui étaient vieux avec des vieux éléphants. Ouais. Et on sent qu'il y a une osmose qui se crée comme ça.
On garde son éléphant toute sa vie en quelque
sorte. C'est à peu près ça en fait, hein, traditionnellement.
Alors l'endroit où vous avez découvert ces éléphants, ce centre de conservation des éléphants du Laos, décrivez-nous déjà, rien que d'y arriver, comment on y arrive dans cet endroit?
Alors, on y arrive en bateau déjà, c'est quand même quelque chose. C'est se situe sur un petit lac de retenue, un petit lac artificiel, mais... Ouais. Et au milieu des collines qui sont couvertes de forêts, ils ont à peu près 400 hectares de forêt pour pouvoir placer les éléphants là-dedans. Et c'est un endroit, oui, assez paradisiaque en fait, autour.
Décrivez-le, cet endroit dans lequel vous êtes arrivé.
Il y a des petits bungalows en bois, il y a des petites maisons en bois, et quelque chose comme ça. Un petit bateau à moteur, on arrive dessus et c'est magnifique. Un petit lac très calme en fait, avec des plantes aquatiques qui sont là. Ouais. Et il fait chaud, c'est un endroit, il fait chaud, relativement chaud, mais pas trop quand même, puisque c'est à la montagne en fait.
Alors, vous avez choisi, pour représenter dans votre bande dessinée, vous avez choisi le noir et blanc. Hein, c'est-à-dire qu'on est... c'est du fusain, c'est ça?
C'est de l'encre de Chine.
De l'encre
en fait,
de Chine.
Du pinceau, de l'encre.
Ça vous a pas un petit peu titillé d'y mettre de la couleur? Parce qu'elle devait être superbe, les couleurs de cet endroit.
Oui, les couleurs sont belles, mais c'est aussi beau le noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. J'y suis attaché, quoi. Et les couleurs sont belles, mais sont pas forcément luxuriantes. Vous savez, il y a plutôt de la brume ou des choses comme ça. Hein. On est quand même dans les montagnes. Ouais. Donc il y a des choses un peu... C'est des camaïeux de vert, des camaïeux de brun, des choses comme ça.
En tout cas, alors pour la végétation, comme je n'ai pas vu évidemment l'endroit, pour la végétation je me rends pas compte. En tout cas pour les éléphants, la façon de représenter les éléphants à l'encre de Chine, ça c'est très réussi parce que vous leur donnez vraiment une expression. Hein. Ils sont vivants, les éléphants que vous dessinez, Jean-Marc.
Mais disons que je suis resté quand même un mois dans ce centre. Donc il y avait un petit troupeau de 6 ou 7 éléphants. Donc j'ai pu les voir vraiment tous les jours et j'ai pu du coup m'apercevoir de leur personnalité. Et quand on dessine tous les jours les mêmes éléphants, on arrive à choper ça. Ouais. Ils ont des regards qui sont différents, ils ont des personnalités différentes.
Vous les peignez très bien, les regards de ces éléphants que vous avez côtoyés pendant un an. On reviendra à cette notion aussi de personnalité des éléphants qui sont tous uniques en leur genre. Il y a ceux qui sont un peu timides, ceux qui sont plus protecteurs. La situation des éléphants au Laos, on le comprend, elle n'est pas brillante. Nicolas Lenné, quelle est plus généralement la situation des éléphants en Asie? Parce que vous avez d'ailleurs commencé votre travail sur les éléphants par l'Inde. Hein. Vous n'avez pas commencé tout de suite au Laos, donc vous avez une vision assez générale de la situation de ces éléphants.
Oui, effectivement, j'ai commencé en Inde, d'abord dans le sud de l'Inde, hein, depuis mon master, puis ma thèse dans l'Ouest de l'Inde, pour arriver depuis mes recherches postdoctorales au Laos. Et c'est vrai qu'alors, il y a parfois des paradoxes aussi, puisque si on regarde le nombre total d'éléphants sauvages qu'il existe aujourd'hui, toutes les actions de conservation ont fait augmenter leur nombre. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque en augmentant le nombre de pachydermes, on augmente aussi les conflits avec les hommes. Après, si on regarde aussi donc les éléphants qui vivent dans les villages, eh bien ceci, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui largement utilisés à travers l'Asie pour le tourisme, et le tourisme est encore loin de fournir des conditions, en tout cas, de vie, naturelles, en plein ce terme. Au pachyderme. On l'a vu surtout en Thaïlande. En Inde aussi, il y a eu tout une fois de plus, il y a eu des mouvements de conservation de la nature qui ont interdit les travaux de débardage de bois. Ça a commencé en Thaïlande en 89. Et puis aussi en Inde en 96. Le Laos est officiellement interdit, mais ça devrait quand même reprendre et ça a toujours existé. En tout cas, donc, c'est vrai qu'il y a des soucis concernant les éléphants de village, moins aujourd'hui concernant les éléphants sauvages.
Allez, nous partons observer les éléphants d'Asie, plus particulièrement au Laos, avec nos deux invités, l'auteur de la bande dessinée La longue marche des éléphants, Jean-Marc Troups, et l'ethnologue Nicolas Lenné. Nous sommes en direct pour nous adresser un message ou une question. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. C'était Hans Futuro Pelo sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Un éléphant, ça se conduit avec les pieds, à 3,50 m de hauteur. Le seigneur des forêts donne sa patience et sa puissance à l'homme. En retour, le cornac adapte son impatience humaine au rythme majestueux de l'animal. Et cette relation peut durer des dizaines d'années.
Mon éléphante, c'est comme une amie. Elle fait partie de la famille. Je passe presque plus de temps avec elle qu'avec ma femme.
Nous sommes toujours au Laos, au pays du million d'éléphants, bien qu'il en reste moins de 1000, hein, si on compte à la fois les éléphants domestiques et les éléphants sauvages. Elle est intéressante, hein, cette relation, Nicolas Lenné, entre le cornac et son éléphant. On l'évoquait à peine, hein, dans la précédente partie, mais ils se tissent un lien très fort entre l'homme et l'animal.
Tout à fait, un lien très fort et un lien sur la longue durée aussi. Puisque hommes et pachydermes ont la même espérance de vie. Donc ouais. On peut supposer que lorsque l'on vit avec un éléphant, bien c'est pour plusieurs dizaines d'années. Ouais. Ce qui laisse vraiment le temps à se connaître, à s'apprécier, à réagir aux réactions de l'un et de l'autre. Et bon, je ne parlerai pas d'osmose, mais presque, on peut vraiment...
Mais cela aussi, on disait, il passe plus de temps avec son éléphant qu'avec sa femme.
C'est évident. Alors peut-être pendant la saison du travail. Peut-être, j'espère pour lui que durant les portes de mousson où il y a moins de travail, il passe aussi un peu de temps.
Qui voit un peu sa femme aussi.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi un métier, le métier de cornac qui engage. C'est aussi un métier qui est dangereux. Hein. Vivre avec, travailler avec un être de 3 à 4 tonnes, c'est pas
sans risque.
Ce n'est pas sans risque. Et c'est pour cela aussi qu'il faut qu'il y ait vraiment une entente, une entente entre les deux individus.
Donc il y a un cornac par éléphant. Un éléphant n'a pas plusieurs cornacs.
Cela dépend des pays. Hein, parce qu'effectivement, en Inde, dans ce que j'ai pu observer, il y a généralement un propriétaire qui emploie un cornac pour faire travailler son éléphant. Au Laos, les éléphants, comme je l'ai dit, et comme il a été dit aussi dans l'extrait, les éléphants appartiennent à une famille. Ouais. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la famille, donc qui le frère, qui le père, qui l'autre frère décide, ce mois-ci je voudrais l'éléphant, donc ils se le partagent un petit peu, mais il appartient au foyer. Mmh.
Voilà. Jean-Marc Troups, vous avez été impressionné par ce lien fort qui existe entre le cornac et son éléphant. On le voit dans votre bande dessinée La Longue Marche des éléphants, parue chez Futuropolis. Vous y consacrez toute une partie de votre récit. Vous essayez même d'imaginer un peu comment l'éléphant perçoit son cornac. C'est assez amusant, les dessins, parce que forcément, avec le dessin, on peut figurer beaucoup de choses.
Oui, c'est l'avantage du dessin, c'est sûr. Oui, il faut savoir que les éléphants n'y voient très peu, en fait. Ils ne voient pas grand-chose. À 30 mètres, je crois qu'ils voient à peu près des choses floues. Donc, ce n'est pas l'organe visuel qui est important chez eux. Ce qui est important, c'est l'olfaction. Ils sentent absolument tout avec leur trompe, comme un aspirateur qui se dirige vers les odeurs. Donc, ils peuvent sentir si quelqu'un a peur, par exemple, si quelqu'un sue, si quelqu'un... Vous voyez, des choses que nous, on ne peut pas percevoir. Et ce qui est important aussi, c'est l'ouïe, en fait. Mmh. Ils entendent absolument tout, quoi. Donc, ils peuvent entendre tout le temps les gens qui parlent, les choses comme ça. Et les cornacs sont tout le temps en train de parler avec leur éléphant, en train de babiller, en train de dire quelque chose, de dire « oui, bon, ça va, tiens, voilà, comme ça ». Et juste avec l'intonation de la voix, en fait, l'éléphant ressent les choses, en fait. Ouais. Même très loin, en fait. Hein. Ils entendent, ils distinguent le cornac, même s'ils ne sont pas visuellement en contact, ils entendent sa voix, ils savent s'il faut venir, s'il faut partir.
Ouais, c'est-à-dire qu'il a appris finalement à percevoir, en tout cas le cornac sait comment l'éléphant perçoit et à se comporter pour qu'il soit perçu. Et il sait que le contact passe par l'oreille et pas par le visuel.
Voilà, exactement. Ouais. Et les fruits en fait aussi, ils ont toujours des bananes dans les poches, ou de quoi manger, du manioc, des choses comme ça. Ouais.
Les éléphants savent aussi se soigner eux-mêmes, c'est ce que vous nous dites Nicolas Lenné. En fait, les éléphants, quand ils sont malades, il faut aussi savoir les laisser et leur faire confiance. Ils sont capables de pratiquer l'automédication.
Tout à fait. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont les cornacs, évidemment, que j'ai rencontrés, puisque j'enquêtais notamment sur la perception des maladies liées aux éléphants. Puisque les éléphants sont aujourd'hui sous la coupe de gouvernance mondiale et ils ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intentions en termes de bien-être, de maladies, d'éthique animale, etc. Et il faut savoir qu'au village, lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là, eh bien, on s'aperçoit que finalement, le cornac ou le propriétaire, eh bien, il n'a pas la prétention d'agir sur tous les aspects, de contrôler tous les aspects de la vie d'un éléphant au village. Bien au contraire, et notamment concernant l'automédication, lorsqu'un éléphant est malade, les cornacs préfèrent les laisser vaquer dans la forêt pour les laisser libres, justement, d'aller choisir, sélectionner alors des fruits, des racines, des feuilles, selon la saison, selon la disponibilité, pour se soigner par eux-mêmes, sur des, que ce soit sur des choses assez bénignes, comme des constipations ou des choses comme ça, ou d'autres problèmes liés au travail. En tout cas, l'automédication, c'est quelque chose d'assez inexploré sur les animaux en général, enfin, à part sur les primates, mais sur les éléphants en particulier, ça ouvre aussi des pistes vraiment très intéressantes sur la santé humaine et santé animale.
On l'entend, les cornacs sont à l'écoute de leur animal, de leur éléphant, et finalement, ils sont capables de leur laisser ou de respecter une certaine liberté. Par exemple, ces éléphants sont donc employés pour travailler au village, pour tirer des troncs d'arbres parfois, ou pour des travaux agricoles, mais parfois, il arrive qu'ils refusent de travailler. Et là, parfois, les cornacs n'insistent pas. Pour quelle raison ?
Effectivement, alors ça peut sembler anecdotique, mais justement en ayant côtoyé de plus près, puis en allant justement dans la forêt quotidiennement avec le cornac, les éléphants, pour voir comment ils travaillaient, comment ils tiraient du bois, ce qui m'intéressait c'était avant tout le lien et la communication, comment on arrivait à communiquer. Et il est arrivé plusieurs fois de voir qu'en plein milieu d'une après-midi, un éléphant ou une éléphante s'arrêtait subitement de travailler sans en connaître la raison. Et je me rappelle bien ce moment, ce jour-là, puisque le cornac, il insista un petit peu, il donna des injonctions, et puis le menaçait également. Et puis, à force un petit peu d'insister, rien n'y fait. Et là, la réaction qu'on aurait pensé, c'est qu'il va battre son éléphant. Et bien au contraire, il me regarde, il me dit, écoute, je crois que cet après-midi, elle ne veut plus travailler. Elle ne veut plus travailler, donc je ne vais pas insister, on va rentrer au camp tranquillement. Et puis, on reprendra donc la tâche demain. Et par une grande surprise, arrivé au camp, qui était là et nous attendait ? Eh bien, le propriétaire de l'éléphant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le propriétaire n'est pas forcément le cornac de l'animal. Et je rejoins ce qu'a dit Troubs tout à l'heure. En effet, l'olfaction de l'éléphant. L'éléphant avait senti, en tout cas, cette présence-là qui nous attendait au camp et s'était sans doute octroyé un moment de répit. Ouais. Et là, pour le coup, eh bien, le cornac était bien content de ne pas avoir battu son éléphante parce que là, il se serait fait lui-même engueuler par le propriétaire.
Ouais, ça veut dire que l'éléphant est aussi attaché à son propriétaire, alors, d'après ce que vous dites ?
Alors, en effet, il y a un lien vraiment, on peut dire, de travail avec son cornac, donc il n'est pas le propriétaire. Par contre, il y a un lien beaucoup plus intime avec son propriétaire, et notamment sur la connaissance, sur l'olfaction, sur les réactions de chacun, qu'est-ce qui est bon ou pas pour l'animal. Mmh. Le cornac, parfois, c'est celui qui est le moins bien traité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'échelle de l'Asie, on décrit un petit peu ces savoirs qu'on considère comme brutaux, etc. Ouais. Finalement, on s'intéresse à l'éléphant en premier, au bien-être de l'éléphant, et pas nécessairement au cornac.
Jean-Marc Troubs, ce qu'on apprend en lisant votre bande dessinée, parce qu'on apprend plein de choses sur les éléphants et sur l'histoire de la domestication de ces animaux. En fait, on se rend compte qu'elle est très ancienne, cette domestication. C'est une pratique ancestrale.
Complètement. 4500 ans avant Jésus-Christ, il y a des premières notification d'éléphants captifs, en fait, des choses comme ça. Ouais. Donc ça remonte à très très loin.
4500 ans,
c'est ça. Ouais. C'est pas forcément des animaux, je pense qu'ils sont très compliqués à domestiquer par rapport à d'autres animaux, même des plus petits animaux, en fait. Parce que c'est des animaux sociaux, en fait, qui sont complètement tout le temps les uns collés avec les autres, un peu comme pourraient être les cétacés, par exemple. Vous voyez, les dauphins, ils sont tout le temps en contact les uns aux autres. Mmh. Donc il y a un lien social qui est évident. Et si l'homme arrive à recréer un lien social comme ça, je pense que c'est plus simple.
Alors, pas difficile à domestiquer, c'est le moment d'aborder un peu ce sujet qui fâche un peu parfois avec vous, Nicolas Lenné, l'ethnologue. Alors, vous êtes intéressé justement à la façon dont se fait l'intégration d'un éléphant dans un village. Alors là, il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, on va déjà essayer de comprendre comment ça se passe, comment on prend un éléphant sauvage et on l'intègre dans un village. Alors, il y a d'abord l'étape de la capture.
Alors effectivement, on ne peut pas parler en termes scientifiques de domestication d'éléphants, puisqu'il n'y a pas d'élevage, qu'on ne fait pas d'élevage d'éléphants, mais qu'on préfère aller chercher des éléphants dans la forêt, des éléphants juvéniles. Mmh. Ça a été le cas depuis la domestication, qui est plutôt à moins 2500 avant Jésus-Christ, mais en tout cas qui s'est étendue à travers l'Asie. Et on préfère aller chercher un éléphant que de le capturer. Donc,
que de l'élever.
Que de l'élever,
oui,
pardon.
On préfère aller le capturer plutôt que d'élever des éléphants. Mais pour quelle raison ? Ça paraît très plus simple, en fait.
Ça, c'est des questions qui intéressent en premier chef l'ethnologue, puisqu'on n'est plus là dans des schémas assez binaires, nature, culture, qu'est-ce que village, qu'est-ce que la forêt. C'est de comprendre un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la cosmo-écologie, en tout cas la manière de voir le monde des villageois. Qu'est-ce que représente un éléphant ? Ici, on est loin de nature que de sauvage domestique. Non, un éléphant, c'est un être qui vit dans la forêt. Il y a des éléphants de forêt qu'on va chercher pour faire venir au village. Et l'intérêt, notamment, de faire venir un éléphant de sauvage, un éléphant de forêt, donc au village, eh bien, c'est de ramener au village un être qui connaît déjà la forêt, qui connaît les plantes de la forêt pour se soigner également. Mmh. Un éléphant qui naît au village ne va pas avoir cette connaissance-là. Eh oui. Et je voudrais juste préciser aussi qu'on va capturer des éléphants qui sont sevrés, c'est-à-dire à l'âge de 4 ou 5 ans. Et c'est le moment qui correspond aussi pour les jeunes mâles de quitter la harde lorsqu'ils vivent dans la forêt.
Mais comment on les capture alors, ces éléphants ?
Alors, de différentes manières. Alors moi, dans ma thèse, dans le Nord-Est indien, c'est la capture au lasso via le mela shikar. Et qui implique aussi, qui est une pratique assez dangereuse et qui implique aussi de la conciliation avec des éléments de la surnature, des protections pour les hommes, pour les éléphants, et puis un échange rituel avec l'esprit qui s'occupe des éléphants de forêt pour lui demander de d'accorder un éléphant et en disant que les humains vont devenir le cornac des éléphants. Ça, c'est très résumé pour la partie indienne. Au Laos, on capture selon la méthode du Khumsang, c'est-à-dire le trou à éléphant. Donc on va creuser des trous comme ça, alors généralement sur les cols, là où passent des éléphants de forêt de manière saisonnière. Et pour ça, les villageois connaissent très bien les migrations saisonnières des éléphants. Ils savent très bien où mettre le trou. Et puis après, ça implique une fois de plus des rituels, la conciliation avec des éléments de la surnature pour ramener l'éléphant au village.
Qu'est-ce que vous appelez la conciliation avec des éléments de la surnature ? Ça sonne très langage d'ethnologue, mais alors moi je ne comprends pas du tout ce que vous me dites. Dites-moi.
Oui, peut-être. Effectivement. Eh bien, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manière de concevoir le monde avec le monde du village qui est construit en opposition. Donc, le monde du village qui est protégé par le bouddhisme, protégé par différents esprits, protégé par l'esprit du foyer également, l'esprit du village. En opposition avec le monde de la forêt, qui est l'espace nommé Pa, qui, c'est la traduction, on dit sauvage, et qui lui est habité par des mauvais esprits. Mais qui possède également un propriétaire, un esprit de cette zone auquel les hommes vont devoir demander de venir récupérer un éléphant.
Alors, c'est entouré de rituels. On a compris aussi comment, avec différentes techniques, on pouvait capturer la bête. Encore faut-il, c'est pas vraiment l'adresser, c'est l'apprivoiser peut-être le terme qui conviendrait le mieux. Comment on apprivoise un éléphant ?
La socialiser.
La socialiser.
Je dirais. Pour éviter le terme dressé. Alors, ça passe par deux périodes. Alors, une première période qui est sans doute la période la plus dure, et c'est celle que l'on voit d'ailleurs très souvent, qui est montrée un petit peu du doigt, qui est la période de séparation de l'être avec son monde et puis avec sa harde natale, donc qui est repris sous le terme de Pajan. Enfin, en vérité, c'est Pachan qui signifie séparation. Mm-hmm. C'est d'ailleurs un rite qu'on effectue pour les humains en Thaïlande. Laos, un bébé qui naît, on va aussi lui faire un rite de séparation d'avec la mère, d'avec son ancien monde. Et donc c'est une période où est-ce que là l'animal va devoir accepter la présence humaine à ses côtés, puisque par définition un éléphant qui vit dans la forêt fuit l'homme. Et accepter la présence humaine, c'est d'abord accepter la voix, accepter le toucher, mais aussi accepter l'odeur de l'homme qu'il fuit aussi.
Donc, et pour accepter la voix, ça passe aussi par le chant. Il y a des chants de dressage.
আবি মন নেরিবি মানু মন ধরিবি মানু কথা মানিবি মানু কথা শুনিবি বাবু সবাই
Alors qu'est-ce qu'on entend là, Nicolas Lenné?
Alors là, il s'agit justement d'un chant de dressage de la première période, donc d'habituation, habituer l'animal à la présence humaine. Et ce sont des chants qui s'apparentent justement à du parler bébé. Ce sont des chants répétitifs, mais aussi calmes. Donc le rythme va faire en sorte que, alors c'est du parler bébé, mais il ne s'agit pas là de faire endormir l'animal, il s'agit au contraire de le garder en éveil et de le rassurer. La musique, il a été souligné tout à l'heure aussi, les éléphants sont très sensibles à l'ouïe. Et la musique aide justement à l'éléphant à se reconstruire son identité. D'un éléphant de forêt, il va devenir un éléphant de village. Et la musique va être présente, omniprésente, tout au long de cette séquence.
Alors là, on est dans une étape de domestication chez un éléphant pour l'intégrer dans un village et l'intégrer ensuite aux travaux du village. Certaines pratiques, notamment liées au tourisme, sont régulièrement dénoncées dans les médias. Les touristes apprécient un petit tour à dos d'éléphants, les éléphants semblent-ils un peu moins.
J'ai eu de bonnes sensations. C'est bon. C'est vraiment une bonne expérience.
Les éléphants au Canada, il n'y en a pas énormément. Ça fait qu'on va en profiter d'être au pays des éléphants.
Pour ces géants de la nature, la balade paraît facile. Et le poids de quelques humains pas si dérangeant. Mais derrière la carte postale se cache un commerce sanglant. Capturés par des braconniers, les éléphants sont enfermés dans une cage et battus. Les sévices ne cessent que lorsque l'animal a compris que l'homme est devenu son maître.
Extrait du journal de France 2, 2 mai 2016. Nous étions en Thaïlande, hein, pas au Laos, c'était en Thaïlande. Est-ce que cette pratique existe au Laos également, Nicolas Lenné, ou pas?
Tout à fait. Alors, j'ai pas pu observer, puisqu'en effet, il y a plus de captures d'éléphants sauvages, mais dans les récits, en tout cas, que j'ai pu recueillir, c'est effectivement selon cette même méthode qui passe donc d'abord par l'acceptation de la présence humaine et puis ensuite un apprentissage un petit peu plus long de certaines commandes de base. Oui.
Mais est-ce que ce qu'on entend là dans la façon un peu de domestiquer l'éléphant est proche de la domestication des éléphants de village ou est-ce que c'est plus violent dans le cas du tourisme? On fait une différence, est-ce qu'il y en a une en fait? C'est ça ma question.
Alors, le tourisme a largement transformé les pratiques, l'accès aux éléphants aussi. Donc, effectivement, je n'ai pas observé moi les dressage dans un camp touristique, mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'en tout cas, lorsqu'un éléphant arrive dans un camp touristique, eh bien il a un cornac, mais il a surtout un vétérinaire. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que il change de mode de gestion. Et il n'est plus traité, j'ai envie de dire, de la même manière. Je n'ai pas observé à proprement parler.
Est-ce que les travaux, les efforts qu'on lui fait faire sont plus violents et plus difficiles quand il s'agit de transporter des touristes sur son dos ou quand il s'agit de transporter des troncs d'arbres?
Là encore, moi, je me fie aussi sur ce que me disent les cornacs. Effectivement, un éléphant, c'est quand même capable de tirer la moitié de son poids. Voilà, c'est aussi des biologistes qui le mentionnent. Après, c'est une question de rythme, d'appréciation, d'horaire aussi, parce qu'effectivement, je ne suis pas du tout là pour faire l'apologie du tourisme, mais force est de constater que c'est vrai que faire sans arrêt des allers-retours avec des nacelles sur 4, 5, 6 touristes sur le dos, en effet... C'est difficile de considérer que l'éléphant il supporte ça très bien.
Allez, suite de nos discussions, dans un instant, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au mode de vie et au comportement des éléphants. Et puis nous verrons s'il est encore possible de sauver cette espèce menacée.
Take control, and I was like,
C'était Lust for Life, Lana Del Rey et The Weeknd sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Compagnie, archer !
Le rabouille des éléphants, sa chenille ne peut s'avant. La trompette n'a pas les oreilles au vent.
Et circule militairement,
et circule militairement.
La patrouille des éléphants, extrait du livre de la jungle, bien sûr, que tout le monde aura reconnu. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Lenné, ethnologue, et de Jean-Marc Troups, auteur de La longue marche des éléphants, avec Nicolas Dumonteuil, paru chez Futuropolis. Alors, les éléphants sauvages vivent-ils vraiment en communauté? Peut-être pas aussi militairement, mais est-ce qu'ils vivent en groupe comme ça, Nicolas Troups? Pardon. J'ai fusionné vos deux noms, Jean-Marc Troups.
Ils vivent surtout, c'est des groupes de femelles, en fait, qui vivent ensemble. Plutôt, c'est des groupes matriarcaux, donc des femelles qui sont là avec leurs filles, leurs tantes et des choses comme ça, qui sont de la même lignée. Et les jeunes mâles, en fait, quand ils arrivent à maturité sexuelle, donc autour de 5, 10, 15 ans, quelque chose comme ça, sont un peu éjectés de ce groupe et se retrouvent entre bandes d'adolescents dans la forêt, plutôt. Mmh. Et ils se retrouvent entre bandes de mâles qui gravitent autour des groupes de femelles, en fait. Donc les plus gros troupeaux, en fait, c'est des troupeaux de femelles. Et des mâles qui sont tout autour.
Les troupeaux, ce sont souvent des familles ou des apparentés quand on est dans la nature ou,
c'est complètement des apparentés, oui. Ouais. Oui, c'est des familles matriarcales. Donc, ouais. C'est des tantes, des filles et des... Il n'y a pas vraiment de signe extérieur. Donc, ouais. Ouais.
Contrairement, finalement, à ce que vous avez pu, vous, observer dans ce centre de conservation des éléphants au Laos, où, alors, vous nous l'avez dit, ce sont des éléphants de réforme, donc de vieux éléphants, ou en tout cas des éléphants qui ne travaillent plus dans les villages, qui sont confiés là, c'est un petit groupe, 6 ou 7
voilà,
éléphants.
Voilà, 6 ou 7 à peu près.
6 ou 7 éléphants. Mais par contre, c'est une famille recomposée. Ils ne sont pas tous, ils sont venus là, c'est un groupe fait de briques et de brocs, sans leur manquer de respect. Mmh. Ils sont venus là un peu par hasard. Et il s'agit de reconstituer une communauté. Donc, c'est très différent finalement des situations naturelles.
Exactement, parce qu'ils ne vivent pas ensemble depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont pas grandi avec leurs parents et leurs tantes, etc. Et on peut même imaginer qu'ils n'ont pas le même langage non plus. Ils n'ont pas le même patois parce qu'ils ne viennent pas de la même région, en fait, du coup. Donc ils n'ont peut-être pas la même façon de parler. Et donc là, au centre de conservation de Sayabouri, donc on les montre un petit peu, on va les faire baigner. Mais la plus grande partie de la journée, en fait, on les laisse dans un enclos qui est pas grillagé mais électrifié, qui est un gros enclos en fait. Et on les laisse entre eux en fait, sans humains en fait. Et là, ils se re-sociabilisent en fait, entre eux.
On leur apprend à faire connaissance finalement, à apprendre à parler le même langage. C'est vrai qu'ils communiquent beaucoup. D'ailleurs, quand on tend l'oreille, on sent que ça communique. Quelques petits barrissements furtifs pendant qu'ils sont en train de patauger dans l'eau actuellement. En fait, pour être tout à fait exact, on n'entend qu'une partie de ce qu'ils se racontent. Parce qu'il y a toute une partie des sons qu'ils émettent, que eux captent, mais qui nous échappent totalement.
Exactement. C'est des infrabasses, en fait, on appelle ça. Des sons qui sont beaucoup plus graves, que l'on ne peut pas percevoir humainement. Ouais. Et on en perçoit un tout petit peu, en fait. C'est un son comme, vous savez, un son de mer, ou le fond de la mer qui bruisse au fond, quelque chose de très très profond, comme ça, qui les arrive. Et c'est très impressionnant, moi, je trouve. C'est vraiment quelque chose qu'on perçoit quand on s'approche, on entend cette basse très très profonde. Il y a ça, et puis il y a ces petits couinements aigus, ouais, qui sont plus des petits bonjours, des petits trucs d'excitation. Ouais. Mais ils sont tout le temps en rapport comme ça, ouais, d'écoute acoustique.
Alors, rapport acoustique, rapport tactile aussi. Hein, parce ils se touchent, ils se tripotent beaucoup à l'aide de leur trompe, ces éléphants aussi.
Oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais.
Ça va certainement avec l'idée que vous nous donniez tout à l'heure, ils ont une mauvaise vue, ils voient très mal, donc finalement, voilà, ça passe beaucoup par le toucher, le tactile.
Exactement. Oui, oui. Et dans le petit groupe là, de recomposition de famille donc, qui a Sayabouri, en fait, des fois, c'est dans une forêt, donc des fois, ils se perdent de vue, en fait. Et là, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y en a un qui barille, parce qu'il se sent seul, peut-être il est perdu au milieu de la forêt, comme ça, ou il a vu un serpent, ou il a senti quelque chose de différent. Et là, tout le monde se regroupe, en fait. Il y a des sons comme ça, de cris d'alarme, en fait. Et là, tout le monde se regroupe, et les plus jeunes se mettent au centre. Ouais. Et les femelles se mettent autour des plus jeunes pour les protéger.
Ouais. Donc il y a déjà des réflexes de sociabilisation. Ça fonctionne finalement, cette famille recomposée. Mmh. Il y avait une question d'ailleurs qu'il se posait, parce que là encore, vous expliquez, normalement, dans la nature, il y a un leader familial, un chef de famille. C'est souvent le plus âgé, ou la plus âgée, puisque ce sont des groupes de femelles essentiellement. Mmh. Mais là, le leader, comment il a émergé? Il n'y avait pas de leader d'office.
Mais non, justement, parce qu'ils n'ont pas appris justement... Dans la nature, c'est celui qui a le plus d'expérience, en fait, qui commande. Les éléphants se déplacent, en fait. Ils sont nomades, un petit peu. Ils vont de point d'eau en point d'eau. Ils vont sur des sentiers. Ils ont aussi besoin de sel, vous savez, de minéraux, de sel. C'est très important pour eux. Donc, ils vont de carrière de sel en point d'eau, des choses comme ça. Et ça, c'est les femelles les plus âgées qui savent le chemin, qui savent qu'il va pleuvoir peut-être dans un mois, dans tel endroit. Donc, il faut aller à cet endroit, etc. Et là, en captivité, c'est plus du tout comme ça. Donc, là, c'est souvent le plus fort, en fait, qui fait le chef.
Finalement, ces éléphants, ils ont tout à réapprendre. Ils ont été sociabilisés à l'homme, pas tellement entre eux. Ils sont presque plus à l'aise, en tout cas au début. Après, ils reprennent leurs remarques, mais au début, ils sont plus à l'aise avec les hommes qu'avec leurs congénères.
Complètement. Ouais. Complètement. Il y a d'ailleurs, dans le groupe de Sayabouri, il y a une femelle, en fait, qui a été sevrée, donc qui a été mise dans un village, et qui n'a plus vu d'éléphant, en fait, pendant toute sa vie, et jusqu'à une 40 ou 50 années. Et elle est arrivée, donc, dans le groupe, le nouveau groupe, comme ça, et elle savait plus ce que c'était que notre éléphant, en fait. Ouais. Donc, elle était en confiance dès qu'il y avait des humains, mais dès qu'elle se retrouvait toute seule avec des éléphants, elle se sentait perdue.
Ouais, elle restait en retrait du groupe. Au début, elle partait se cacher dans la forêt.
C'est ça, ensuite, elle s'échappait complètement.
Ouais. Et après, elle se rapprochait de plus en plus.
Et voilà, et là, je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle est dans le groupe, et petit à petit, elle commence à revenir tranquillement vers les autres.
Il y en a un autre, hein, qui a quelques problèmes, parce que dans ce groupe essentiellement constitué de femelles, il y a un mâle. Alors ceux qui s'occupent du parc espéraient que ce mâle puisse peut-être féconder quelques femelles et puis augmenter un peu le troupeau d'éléphants. Mais pour le moment, il est particulièrement calme du point de vue de la libido, ce mâle, apparemment.
C'est pas tellement de la libido, c'est justement de la façon de faire, de s'accoupler, en fait. Il a vu personne s'accoupler, c'est pareil. Oui. Il n'a pas eu d'exemple, en fait, d'accouplement devant lui. Donc il sait pas trop comment faire. Il monte sur les femelles, mais il sait pas trop quel moment il faut le faire, à quel endroit. Il y a vraiment un apprentissage. En fait, ce sont des animaux qui s'apprennent les uns les autres. En fait.
Et là, il n'y a pas eu cette phase d'apprentissage en troupeau. Donc, ce pauvre éléphant, pour le moment, n'a pas encore trouvé le moyen de
sait pas trop comment faire.
S'accoupler avec les femelles du groupe. Il y a quelque chose aussi d'étonnant que vous racontez. Parfois, ce mâle éléphant qui est dans le groupe a un liquide jaunâtre, je crois, qui...
Plutôt goudronneux.
Goudronneux. Hein, comme c'est en noir et blanc dans votre bande dessinée, j'ai pas la couleur.
Alors, goudronneux. Voilà. Qui a une forte odeur de musc, très très forte, on le sent de loin, en fait. Et en fait, ils ont des glandes temporales qui sont sous les tempes, à peu près, et qui régulièrement, une fois par an, peut-être à peu près, quelque chose comme ça, ça peut durer jusqu'à 6 mois, mais ça peut durer 15 jours à peu près. Les mâles deviennent, ils suintent de ce liquide, ils deviennent très excités, en fait. Et ils se frappent entre eux, ils sont très violents entre eux, ils sont dans un rapport de domination, en fait. Hein, qui n'est pas forcément un rapport sexuel, en fait, mais qui est plutôt un rapport de domination, en fait.
Et ça s'appelle le must, hein, c'est ça?
Ça s'appelle le must.
Voilà. M-U-S-T-H. Oui. Et c'est ça, on a l'impression que c'est lié à la reproduction, mais vous dites que c'est uniquement une envie, un besoin de dominer à ce moment-là.
C'est un peu mystérieux, en fait.
Hein. Ouais, c'est très mal étudié.
Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ce n'est pas essentiellement de la reproduction, en fait. Ouais. C'est le mâle devient dominant. Tout d'un coup, c'est eux les chefs et il faut qu'ils soient les chefs.
Et dans ces moments-là, le cornac doit se méfier de son éléphant. Il peut devenir dangereux même pour lui. Hein.
Ben, c'est là que le plus souvent, en fait, il y a des problèmes de cornac qui se font tuer par leur éléphant. Des cornacs qui ne sont pas expérimentés, qui ne savent pas prévoir ce truc-là, qui ne voient pas la chose arriver. Là, il y a des gros problèmes, en fait.
À terme, le parc que vous avez observé pendant un mois, le but, c'est de devenir une réserve, c'est que ces éléphants deviennent de plus en plus autonomes.
C'est ça, c'est de refaire un groupe qui soit socialement viable, en fait, et puis un peu de le relâcher, mais sous contrôle aussi, avec des colliers, des choses comme ça, de les observer, mais un peu de refaire des groupes un petit peu naturels, en fait.
Allez, dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous, et puis nous découvrirons ou redécouvrirons un extrait d'une lettre aux éléphants d'un certain Romain Gary.
Assez causé, assez palé, ti garçon, ti ou courri la nuit trop, ti garçon, ti mouton, ou qui est fatigué trop, ti garçon, ti mouton. Papa mouton, maman mouton, oh la way, yo, oh, oh, yo. Anoule, maman là, amoli, amoli, j'ai péré. Poussez, mais poussez! Assez causé, assez palé, assez causé, assez palé, petit garçon. Si vous faites qu'on papa, petit garçon, petit mouton. Ou qui est fatigué, toi, petit garçon, petit mouton. Papa mouton, maman mouton, oh la ouais. Mettez la courage là, hein. Allez. Assez causé, assez palé, assez causé, assez palé, petit garçon. Si vous faites comme papa, petit garçon, petit mouton. Même chose ou vini fou, petit garçon, petit mouton. Papa mouton, maman mouton, oh là. Assez causé, assez palé, assez causé, assez palé, petit garçon. Si vous faites comme maman, petit garçon, petit mouton. Bêtise la nuit, le jour, petit garçon, petit mouton. Papa mouton, maman mouton, oh la ouais, yo, yo, yo.
Assez causé, c'était Jenny Alpha sur France Inter, le temps d'un bivouac, toujours en compagnie de Nicolas Ledné, ethnologue, et de Jean-Marc Troups, auteur de la bande dessinée La Longue Marche des éléphants, parue chez Futuropolis. Alors tous deux, vous vous êtes intéressés un peu chacun de votre côté, hein. Vous ne vous connaissiez pas avant cette émission, au sort des éléphants, vous êtes tous les deux passés par le Laos. Un autre auteur avant vous s'était intéressé au sort de ces animaux, Romain Gary, qui une dizaine d'années après son roman Les Racines du Ciel, publia dans le Figaro littéraire, c'était en mars 1968, une lettre à l'éléphant.
Monsieur et cher éléphant, vous vous demanderez sans doute en lisant cette lettre ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation, tel est, bien sûr, ce motif. Depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison. Car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes.
Un extrait donc de cette lettre aux éléphants signée Romain Gary en 1968. La lettre est évidemment bien plus longue, ça ce sont les deux premiers paragraphes. Cette idée que si nous ne parvenons pas à sauver les éléphants, nous ne parviendrons pas à nous sauver nous-mêmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Lainé ?
C'est une évidence, d'abord. Et en prenant l'exemple de l'Asie, ben, comme il a été rappelé, ça fait des millénaires que nous vivons et que nous côtoyons ces animaux et nous ne savons pas justement ce que nous allons devenir sans ces animaux parce que ces animaux nous ont apporté beaucoup, nous apportent beaucoup. Hein. On pourrait remonter très loin. Les civilisations asiatiques se sont installées, ont suivi les traces des éléphants pour trouver des endroits. Les éléphants ont défriché des pans de forêt entières jusqu'à aujourd'hui.
Mmh. Alors Romain Gary, c'était lui plus intéressé aux éléphants d'Afrique. Vous, c'est plus les éléphants d'Asie. C'est quoi la différence entre un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie? Est-ce que l'un de vous veut répondre? La taille des oreilles, au moins, je crois. Non,
la taille, le poids,
c'est la même
oui.
Ils peuvent se reproduire entre eux ou pas?
Non. Ouais. Non, ils peuvent
pas. C'est pas la même espèce.
Il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, en Afrique, les mâles et les femelles possèdent des défenses et connaissent ce phénomène de meute, ce qui n'est pas le cas en Asie où seuls les mâles possèdent des défenses. Après, la taille des Afriques, la forme du dos, convexe, etc.
La taille des oreilles, hein, pas la taille des oreilles des Afriques. Allez, je vous pose quelques questions des auditeurs. Pardon. Que se passe-t-il, demande Claire, que se passe-t-il quand un éléphant refuse complètement de travailler? Est-il forcé par le cornac?
Alors, j'aurais tendance à dire que non, et tout dépend de l'appréciation du cornac, à savoir si d'abord il est le propriétaire de l'éléphant ou pas. Comme je l'ai raconté tout à l'heure, un cornac, alors un bon cornac, mais il peut avoir des brebis galeuses un petit peu partout, qui connaît son éléphant, va comprendre si son éléphant refuse, il ne va pas forcer systématiquement son éléphant à travailler.
Jérémy vous demande, Jean-Marc Troups, comment se passent les activités de tourisme au centre de conservation du Laos? Est-ce qu'elles sont différentes du tourisme habituel?
Oui, j'ai l'impression. On suit la vie des éléphants. Les cornacs vont les chercher le matin dans la forêt, où ils sont en liberté dans la forêt. On va les baigner, en fait, dans le lac. Ils viennent un petit peu comme ça. On les nourrit un petit peu à la main. Et après, on va les relâcher dans l'enclos. Et puis là, il y a des postes d'observation où on les regarde vivre leur vie.
De quoi se nourrit l'éléphant domestique, nous demande Violaine.
De végétaux, hein, complètement, de fruits, de végétaux, de Sayabouri. En fait, il y a des parties de la forêt qui laissent en exploitation, qu'on fait tourner en fait. On les laisse se nourrir dans un endroit et puis après on va dans un autre endroit le temps que la forêt se régénère.
Allez, dans un instant, nous allons remonter le temps pour un voyage sur les pas d'un grand explorateur d'hier, Marco Polo, avec notre invité Louis-Marie Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Il en a croisé, Marco Polo, des éléphants dans son grand voyage qui l'a amené jusque sur les territoires de la Chine actuelle.
Apparemment, oui. S'il raconte une bataille célèbre qui aurait eu lieu entre l'armée mongole et l'armée birmane avec une attaque d'éléphants en bonne et due forme sur les cavaliers mongols et apparemment les Mongols ont été un petit peu surpris de l'affaire.
Bon, vous allez nous raconter ce voyage assez extraordinaire réalisé par Marco Polo au XIIIe siècle. Ce sera juste après le flash. Merci Nicolas Lainé et Jean-Marc Troups. Je rappelle le titre de la bande dessinée que vous co-signez avec Nicolas Dumonteuil, La longue marche des éléphants chez Futuropolis. Merci à tous les deux.
Merci à vous.